Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans toute une vie. Il disait « L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non à écouter des histoires de plus en plus surprenantes ». Plus d'une trentaine de films, parmi lesquels La Bête humaine, La Grande Illusion, Vivre libre ou French Cancan, dans lequel joua Michel Piccoli en 1954, qui nous donne l'envie d'écouter le documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisé par Clotilde Pivin. Jean Renoir, 1894-1979, c'est toute une vie de tableau qui nous donne envie de nous promener dedans.
Le monde se divise de 1000 possibles façons différentes. Le monde peut peut-être se diviser en nations, il peut aussi se diviser en religions, il peut aussi se diviser en civilisations. Il se divise certainement en professions, mais il se divise aussi en générations. Et il est évident que chaque génération apporte quelque chose que la génération d'avant n'avait pas. Et étrangement, dans le cadre évidemment de la même civilisation, il y a entre tous les gens de la même génération des rapports incroyables.
On regarde un peu la tête qu'ils ont.
Jean Renoir, tout le monde a ses raisons. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin.
Ah, est-ce qu'on pourrait avoir une friture?
Ah oui.
Est-ce que vous pensez qu'il existe une filiation, défiliation, Jean Denisot, entre Renoir et des réalisateurs qui ont votre âge, donc 38 ans ou un peu plus?
De toute façon, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que c'est un cinéaste qui est immense. C'est pas un cinéaste qui a tracé, disons, une voie et, disons, une forme, qui a imposé une forme. Et on pourrait dire facilement, oui, tel jeune cinéaste se revendique d'eux. Par exemple, on dit souvent que tel cinéaste est plutôt truffaldien, ou plutôt tel cinéaste est plutôt du côté de Piala. Voilà, ce sont des manières qui sont immédiatement reconnaissables. Ce qui n'est pas le cas de Jean Renoir, parce que Jean Renoir, encore une fois, il a fait des films très très différents. Je crois que ce qui était important pour lui, et ce qui fait la force de son cinéma, c'est la philosophie qui s'en dégage. C'est-à-dire l'ouverture sur le monde, sans tomber dans la niaiserie, sans tomber dans le manichéisme, parce que c'est un cinéaste qui sait regarder en face la cruauté des hommes, qui ne l'édulcore jamais. Mais c'est un cinéaste qui fait l'effort de dire qu'on peut faire société, qu'on peut s'entendre, et qu'il n'y a pas de raison de continuer à s'entretuer. Alors, est-ce qu'il y a des cinéastes? Moi, par exemple, je pense souvent à la petite voleuse de Claude Miller. Alors, Claude Miller, il est décédé, c'est un cinéaste qui était un peu un cinéaste d'entre deux, qui est arrivé après la Nouvelle Vague, qui est un cinéaste qui a été très apprécié, qui pourtant sans doute est encore un peu méconnu. Et je pense à la petite voleuse pour cette phrase très simple et très limpide de la belle-mère de Charlotte Gainsbourg. Quand on lui demande pourquoi est-ce qu'elle est si méchante, elle dit « c'est parce que je suis malheureuse ». Et ça, c'est vraiment la définition du cinéma renoirien, en quelque sorte. C'est que tout le monde a ses raisons, c'est la célèbre phrase de la règle du jeu, et en même temps c'est une manière de regarder les gens, c'est-à-dire que peut-être que les gens effectivement ont des raisons d'être méchants et qu'il faut regarder cette méchanceté, il faut la dénoncer, mais il faut essayer de la comprendre.
Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous un grand drame social. Le spectacle vous prouvera que le vice est toujours puni.
Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de représenter devant vous
la vertu,
une comédie à tendance morale.
Qu'est-ce que vous faites là?
J'annonce la comédie.
Mais c'est à moi de
Mais
la...
pas du tout, c'est à moi. Mesdames et messieurs, n'écoutez pas ces braves gens. La pièce que nous allons vous montrer n'est ni un drame, ni une comédie. Elle ne comporte aucune attention morale et elle ne vous prouvera rien du tout. Les personnages n'en sont ni des héros, ni de son retraite. Ce sont de pauvres hommes, comme moi, comme vous. Et maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer.
J'ai eu la chance de voir les acteurs qui avaient eu du succès. À l'époque où le mélodrame était à la Porte Saint-Martin et à l'Ambigu sur le boulevard, ils jouaient maintenant dans les quartiers. Je les ai vus encore. D'Artagnan était évidemment croulant, mais c'était tout de même encore un très beau D'Artagnan. Alors j'ai eu la chance de grandir dans cette littérature de mélodrame romantique. Par exemple, j'ai eu la chance de voir un mélodrame absolument inconnu, qui est aussi beau que l'Opéra des Mendiants. C'est ça le vaut. C'est une œuvre française. Ça a été représenté en 1825. La première fois, ça s'appelle Jacques Sheppard ou Les Chevaliers du Brouillard. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Je ne l'ai pas vu depuis que j'avais 10 ans. Je ne pense pas que je connaisse un aussi beau spectacle que Jacques Sheppard ou Les Chevaliers du Brouillard, à part naturellement Guignol quand j'étais petit. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux.
Romain Arduin, vous êtes un fan de Jean Renoir.
Oui, un admirateur de Jean Renoir. Ça fait un an, un peu plus d'un an depuis que je suis arrivé à la fac. J'ai découvert, je crois que c'était La Grande Illusion avec un professeur qui écrivait au cahier du cinéma. Et il nous avait fait un cours sur une sorte d'analyse sur une partie de La Grande Illusion. Et en fait, après, j'ai regardé le film. Et là, j'ai continué à regarder. Parce que c'est sublime.
Vous avez quel âge ?
J'ai 21 ans.
Monsieur le Marquis veut plaisanter.
Je savais que Monsieur le Marquis me comprend. Reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ce grande brute.
Grande brute ? C'est
à prendre la politesse. Qu'est-ce que j'ai fait pour un petit lapin ?
On devrait avoir le droit de
nous répondre. Tu n'as pas de rien du tout.
Je vivais dans une atmosphère extrêmement vraie. Par exemple, étant donné que mon père peignait beaucoup de nus, pour moi, le nu féminin n'avait aucun mystère. C'est ce qui fait que je n'ai pas eu de certaines de curiosité malsaine qu'avaient beaucoup de mes camarades à l'école, ce qui m'étonnait beaucoup. Lorsque je voyais des petits copains à l'école regarder des cartes postales pornographiques, je me demandais ce qu'ils voyaient. Je trouvais ça très bien, très naturel. En somme, j'étais un enfant extrêmement normal. Seulement, précisément, étant au courant de la vérité vraie, étant au courant des faits physiques de notre vie matérielle, le rêve, par contraste, prenait une plus grande importance chez moi.
Jean Denisot, vous préférez Renoir à Duvivier, à Carnet, à Claire ?
Ben oui, parce que ce sont des cinéastes intéressants, hein. René Clair, Marcel Carnet, Julien Duvivier. J'ai revu récemment des films de Duvivier, c'est très intéressant. Mais je trouve quand même, quand je compare Duvivier à Renoir, je trouve que Renoir est, je ne sais pas si ça se dit, à la fois plus bienveillant et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui regarde véritablement la cruauté en face. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il est aux deux extrémités du spectre de l'artiste. Il est à toutes les extrémités du spectre de l'artiste. C'est vraiment l'artiste total pour moi. Avec, en plus, la qualité qui est essentielle, qui fait qu'on peut s'approprier son cinéma et s'en revendiquer, le fait que c'est un cinéaste qui n'est pas écrasant. Ce n'est pas une figure du commandeur, c'est un cinéaste qu'on aime aimer.
Vous avez quel âge ?
J'ai 38 ans.
Christine ! Hé, Christine ! Christine ! Qu'est-ce qu'on fait pour un jubile ?
Nous tenez assez de ce théâtre !
J'ai vraiment un parcours tout à fait classique, j'ai fait des courts-métrages, et puis après j'ai fait un long-métrage que j'ai tourné en 2012, qui est sorti en 2014, qui s'appelle La Belle Vie. Et depuis, j'ai écrit pour une série qui s'appelle Ainsi soit-il, une série pour Arte, sur des jeunes prêtres. Et puis j'ai plusieurs projets en même temps, et j'essaye de monter mon deuxième long-métrage. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de faire un deuxième long-métrage en France, et c'est presque plus difficile de faire un deuxième long que de faire son premier. Parce qu'il y a un système qui valorise l'émergence des talents, et par contre qui ne confirme pas les talents. C'est plus difficile, en fait, de durer.
Ma chère, vous n'avez pas vu madame ?
Non. Mon petit Saint-Aubin, je vous assure que c'est pas pour vous embêter, mais j'y arrive pas.
Écoutez, Octave, vous êtes bien gentil, mais...
Mais puisque je vous dis que je peux pas la retirer tout seul.
Ça n'est pas le moment.
C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez Renoir, c'est ce que forcément ça m'a plu après, parce que Renoir a été très influencé par du théâtre.
J'arrive seulement à la retirer, ma peau d'ours. Ils verront.
Et du coup, on retrouve le motif du théâtre partout. Ça ouvre sur le théâtre, ça se ferme sur le théâtre. Souvent, ces films sont du théâtre, l'Arrêt du jeu, c'est un théâtre.
Et vous aimez ça, Romain Arduin, le côté théâtral, parfois vaudevillesque des films de Jean Renoir?
Oui, parce que du coup, ça donne un côté... je pense qu'on n'en parle pas assez, Jean Renoir, mais finalement, il y a quelque chose comme ça qui... je me perds un peu dans mes idées, mais il y avait un... L'Arrêt du jeu, c'est un vaudeville, etc. Du coup, ça permet à tout le monde de le voir et finalement de prendre une part de plaisir, même sans comprendre tous les enjeux. Moi-même, j'ai pas compris tous les enjeux. Il faudrait, je pense, des visionnages, beaucoup de visionnages pour voir tout ça. Et je pense que oui, moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est justement, on dirait que c'est un peu le Marivaux du cinéma, quoi. Il y a une sorte de vaudeville permanent dans ces films. Il y a des échanges et il y a des claquages de portes. Il y a dans l'Arrêt du jeu cette profondeur de champ qui illustre ça aussi avec toutes les strates de compréhension possibles. Ah oui, c'est sublime, moi je trouve ça sublime. Sous des allures de votre ville, on en arrive à faire une sorte de satire de la société, de montrer un peu un reflet qui n'est pas forcément très plaisant, mais qui est marrant, que je trouve assez drôle, un peu, pince sans rire, mais voilà, il y a une forme d'humour qui me plaît, moi.
Le vaudeville, le théâtre, il est présent dans d'autres films de Renoir que La Règle du jeu, où là, c'est très sensible.
Oh, j'ai l'impression qu'il est là tout le temps, parce que...
Jérôme Bonnel.
Je me souviens, alors, j'ai pas revu les films très récemment, mais il me semble que le début... Baboudu, c'est une pièce. Il y a La Chienne, avec le début, c'est comme un théâtre de Guignol. Et son tout dernier film s'appelle Le Petit Théâtre de Jean Renoir. Elena et les Hommes est un film, toute la partie d'après-guerre est très... Enfin, en tout cas, tous les films en couleur, je trouve, sont très théâtraux. Donc, bien sûr, ouais, je pense qu'elle l'a jamais quitté. Même si son cinéma évolue, le théâtre est toujours là. Le Carrosse d'Or, French Cancan.
Vous pouvez raconter, Jérôme Bonnel, en quelques mots, la règle du jeu?
C'est l'histoire du vaste chaos de l'inconstance amoureuse à travers des couples entre les bourgeois, les domestiques, tout ça concentré dans un temps assez court, dans un décor qui est presque toujours le même, qui est un château en Sologne, et qui raconte une période très précise d'avant-guerre, et en même temps qui raconte la vie entière, depuis toujours, hier, aujourd'hui et demain. Donc c'est ça le génie du film.
Jérôme Bonnel, vous avez réalisé combien de films?
6. Le Temps de l'aventure, Le Chignon d'Olga, Les yeux clairs, À trois on y va.
Et vous avez quel âge?
J'ai 39 ans.
Pourquoi, Jérôme Bonnel, La règle du jeu n'a pas du tout marché?
Parce que je sais on ne sait jamais pourquoi un film marche, et encore moins pourquoi il ne marche pas. Et là, la règle du jeu, c'est une chance, parce que l'histoire lui a donné raison plus tard, mais je pense qu'il y a plein de très beaux films qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu cette chance, qu'on n'a pas pu voir après. Donc je ne sais pas.
Monsieur Jean Renoir, avec ce micro de la radiodiffusion française... Nous venons vous demander de bien vouloir recevoir chez vous tous les auditeurs qui désirent vous être présentés. Je sais bien que cette méthode est très peu conformiste, mais vous aimez à répéter que nous sommes à l'époque des grands changements.
Oui, bien sûr, nous sommes à l'époque des grands changements. Je crois même que les grands changements sont faits. Je crois maintenant qu'il est trop tard pour parler des grands changements. Mais enfin, parlons-en tout de même, si vous le voulez bien. Nous sommes un peu dans le cas d'un personnage qui vieillirait. Quand on vieillit, on ne s'en aperçoit pas. Pas du tout, n'est-ce pas? Évidemment, on est vieux, les gens qui vous voient passer dans la rue disent « Tiens, oh, regardez donc le vieux bonhomme !» Et puis soi-même, on se regarde dans la glace et on se trouve pas si mal que ça. Puis alors, un beau jour, on attrape par exemple un rhume. Et ce rhume, au lieu de durer 3 jours, dure 3 mois. Eh bien, en ce moment-ci, il me semble que la même histoire se passe avec notre siècle. Notre siècle est vieux, très vieux, et notre siècle ne le sait pas. Autour de nous, on ne parle que de jeunesse, que de changement, que d'idées absolument nouvelles et inconnues avant, n'est-ce pas? Donc, je crois, voyez-vous, que le changement s'est effectué.
C'est votre film préféré de Renoir?
C'est même mon film préféré tout court, La règle du jeu. Je pense encore aujourd'hui qu'on n'a pas fait mieux depuis. c'est un miracle de film parce que on a le sentiment que qu'il échappe même aux intentions de Renoir qui étaient un peu imprécises, qui étaient il a relu Marivaux, il a relu Musset, il a fait une fantaisie, qu'il a appelé une fantaisie sur l'inconstance amoureuse, et qu'en même temps ça préfigurait la Deuxième Guerre mondiale, en même temps c'est une modernité absolue, en même temps c'est intemporel, éternellement moderne. Enfin, c'est un film, c'est moi je suis je me lasse pas de le revoir, je le revois au moins une fois tous les deux ans, et j'ai toujours peur de le revoir parce que j'ai peur que l'émotion s'abîme, et c'est jamais le cas, donc c'est extraordinaire.
Et pourquoi le film vous émeut, Jérôme Bonnel?
C'est quelque chose qui m'émeut particulièrement chez Renoir en général. C'est bien au-delà de son génie et de son immense talent. C'est quelqu'un, enfin c'est le paradoxe miraculeux de ce regard implacable qu'il a sur le monde et sa violence, tout en ayant une croyance indéfectible dans l'homme et dans la légèreté des choses. C'est le cinéaste de la réconciliation. Il n'a de cesse, là où le conflit est préétabli, à n'y mettre que de la paix possible. Alors ça va être l'amitié éventuelle entre l'aviateur et le marquis dans La Règle du jeu, alors qu'ils aiment la même femme. Ça va être la paix possible entre les Français et les Allemands dans La Grande Illusion, alors que c'est un film de guerre. Ça va être l'amitié possible entre un baron ruiné joué par Louis Jouvet dans Les Bas-Fonds, qui surprend un cambrioleur joué par Gabin en pleine nuit, et plutôt que de lui tirer dessus ou d'appeler la police, il va lui dire « Bah, asseyez-vous, je vous en prie, il va partager son dîner, ils vont jouer aux cartes toute la nuit ». Et c'est quelque chose, moi, qui m'émeut, qui a peut-être influencé mon travail, mais qui sûrement a influencé ma vie. Voilà. C'est ce regard. Je sais pas si c'est de l'optimisme forcené, parce que c'est plus complexe que ça. Renoir, c'est pas quelqu'un qui s'aveugle, hein. C'est pas quelqu'un qui. C'est que justement, c'est ce mélange de légèreté et de profondeur des choses, et sans bouder la violence du monde, hein, avec une immense clairvoyance. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, si je pouvais être comme ça, je serais très heureux. Exactement comme ça. J'espère que je le suis un peu.
Et votre cousin Edmond Voisier, la deuxième leader que j'ai connu autrefois à Berlin.
Ah, très bien, il est très content. Il a été blessé, il a un bras en moins, il a épousé une femme terrible.
C'est une très belle carrière.
Blue Mimi? Of course. You were riding her when you won the Grand Military in Liverpool in 99, weren't you?
Prince of Wales Cup.
I remember.
I say you would. Little dear club shows, buddy.
Romain Duin, est-ce qu'il y a dans la technique de Renoir des trucs remarquables et que vous prendriez bien si vous étiez réalisateur?
Des trucs alors oui, il y a les formes. Les formes filmiques, c'est-à-dire laisser le temps, et ça c'est très beau, laisser le temps aux comédiens de pouvoir parler, laisser le temps à la caméra de glisser, c'est très subtil. Enfin moi c'est ce que je trouve, c'est la technique, c'est par exemple, il y a très peu de découpage. Il y a un professeur du MIT qui parlait de Jean Renoir et qui disait, il s'appelle David Thorburn, je ne sais pas comment on dit son nom, mais et en fait il disait qu'il y avait la caméra, au lieu de prendre un dialogue, par exemple, normalement, la caméra va faire des champs contre champs. Elle va prendre de face un des protagonistes, et ensuite, quand l'autre parlera, prendra de face l'autre protagoniste. Et là, en fait, ce que ferait Jean Renoir, plutôt, c'est de tourner autour, mais de pas faire de cut, de pas couper, forcément. Et moi, c'est ça que je l'aime beaucoup, c'est des choix cinématographiques, des choix de forme, comme dans La Grande Illusion, ce moment où justement, il y a les prisonniers. On part des prisonniers pour aller jusqu'au théâtre. Il y a des longs panoramiques comme ça qui sont très beaux. Enfin, il laisse le temps, je trouve. Hein, il laisse beaucoup le temps. Il y a une seule fois où il ne laisse pas le temps, c'est dans la règle du jeu. Au moment où il y a cette partie de chasse, Renoir ne supporte pas la chasse. Et en fait, il va couper violemment. Il va découper extrêmement violemment toutes les images pour quelque chose de très saccadé, quelque chose de... Enfin, de féroce, quoi, et pour montrer aussi la. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, pour montrer. Une chasse, c'est pas comme ça. La chasse, on voit les hommes qui tapent sur les arbres, c'est une mise en scène de la chasse, quoi. C'est pas la chasse. Ça se fait pas comme ça, une chasse, normalement. Mais je saurais pas te dire, en fait. Je ressens, en fait, je ressens plus que j'analyse. Et je pense que même après quelques années d'études de cinéma, c'est ce qui est bien.
Le charme aussi, il va vraiment chercher le charme. Je trouve que le charme de Pierre Freinet dans La Grande Illusion, j'ai l'impression qu'il était à son maximum. Le charme de Marcel Dalliot dans La Règle du jeu est inouï, quoi. Et il a sorti comme ça des choses des acteurs que finalement on n'a pas ou peut retrouver après dans d'autres rôles. Je pense que c'est quelqu'un qui. Je suppose que c'est quelqu'un qui les a bien regardés, qui ne pense pas qu'on puisse remplacer un acteur par un autre, ou alors le personnage est très très entamé. Et pourquoi pas, il se dirait. Mais je pense qu'il cherche le point de jonction entre quelque chose du personnage qu'il a écrit, de l'acteur qu'il incarne, qui compte beaucoup, et de lui-même. Le plus dur, moi j'en ai pas une grande expérience moi dans mon travail, de travailler avec des non-professionnels, mais le plus dur c'est de les mélanger, hein. C'est de prendre un acteur qui a beaucoup d'expérience face à quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie. Ça c'est ce que faisait Piala tout le temps, ce qui est très très impressionnant.
Bien, entre les Piemontais et les Espagnols qui sont chargés de la masse, ces étrangers qui viennent lever les peines de la bouche, c'est malheureux que ce soit chômage. Mais toi aussi, il y a un an que tu arrives de Touré qui s'est fait embaucher ici. Et alors? Et alors moi aussi, il y a 2 ans que je répliquais de Barcelone et je suis content que j'ai trouvé des boulots dans le pays, au moins pour les enfants. Mais moi, je suis nouveau et mon pays, c'est celui qui me fait bouffer. C'est pour ça que tu es si gros.
Bah, en même temps, D'Antoni triche un peu parce qu'il fait jouer un Italien par un Marseillais qui est Charles Blavette et qui est italien à peu près comme moi, je suis finlandais, quoi, donc c'est...
Je pensais plutôt au plan au tout début où on voit justement les immigrés qui arrivent et,
oui.
Et même justement c'est gauche parce que les gens regardent la caméra.
Ah oui. C'est beau ça d'ailleurs. Ouais, c'est très beau. Le regard caméra. Bah, c'est très honnête quoi. C'est de se dire, bah oui, il y a une caméra. Pourquoi le cacher? Et c'est très joli qu'il y a une caméra. On le sait. On fait souvent de croire qu'elle n'est pas là, mais elle est là tout le temps quoi. C'est comme un plan flou chez Cassavetes. Moi, je trouve ça très beau le regard caméra.
Mettez dehors là-bas. Les papiers, s'il vous plaît.
La via per andare in città, dov'è? Cosa dice? La via per andare in città.
E qui, a via aprite.
Ah, arrivederci, grazie.
Arrivederci.
C'è la première fois que vous travaillez en France?
Non, non, je suis déjà venu. Ça va. Allez.
Vous avez quel âge, Arthur Harari?
J'ai 36 ans.
Vous avez fait combien, vous avez réalisé combien de films?
Alors, un long métrage et on va dire 5 ou 6 courts moyen métrage. Ça dépend à partir de quand on compte. Le temps qui est laissé et aux acteurs et à l'action et aux voix, aux sons, le son chez Renoir est incroyable. Notamment dans toutes les années 30, il est extrêmement vivant, il est jamais propre. Enfin, en tout cas, dans la première partie des années 30, il est...
Parce qu'il aime, Arthur Harari, le son direct.
Oui. D'ailleurs, il y a des films de Renoir dont le son est très mauvais. Enfin, est très mauvais. Moi, je trouve qu'en fait, ça, aujourd'hui, ça crée une grande beauté, mais il est techniquement très mauvais. Dans La Chienne, il est assez mauvais. Dans La Nuit du Carrefour, c'est un enfer. On n'entend rien, on comprend rien. Dans Boudu, c'est pas terrible. Voilà. Alors, en fait, c'est un cinéaste qui est devenu vraiment professionnel, au sens... de la distinction amateur-professionnel. Et ces films qui ont encore un pied dans l'amateurisme dans les années 30, où il invente, où il trouve un style, et où d'ailleurs, après, il a prétendu être très volontaire dans l'invention de ce style et dans ses choix, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et notamment les conflits en montage, et même en tournage, mais surtout en post-production, en montage avec ses producteurs, sur La Chienne, sur La Nuit du Carrefour, sur Madame Bovary, sur. C'était monstrueux, sur Boudu, c'était. C'est très compliqué en fait, parce que c'est un type qui avançait vraiment un peu à l'aveugle au début. Et c'est comme ça qu'il est devenu un grand cinéaste, en forgeant ses armes petit à petit, et au départ dans une très grande liberté et dans un grand amateurisme, quoi. C'est-à-dire que son instinct qui était génial, et d'ailleurs c'est ça qui pour moi fait que les années 30 c'est la période la plus belle, c'est que quand il, après être passé par Hollywood, enfin d'abord après être devenu un cinéaste d'une très grande précision, en gros jusqu'à La Règle du jeu, et encore La Règle du jeu c'est un énorme bordel. L'écriture, le découpage, la mise en scène, et parce que c'est lui qui produisait, c'était un chaos total. Et le film qui en sort est d'une grandeur dingue, mais après être passé par Hollywood et avoir accepté dans la douleur une forme de formatage, parce qu'il voulait devenir un cinéaste hollywoodien, il ne voulait plus rentrer en France, il avait même une espèce de détestation de la France qui est très bizarre et qui est liée aussi à sa à son attitude très ambiguë avec Vichy. Donc il a décidé de ne plus revenir en France. Il a fini par y revenir faire des films, même s'il a toujours vécu aux États-Unis. Mais il est, pour, à mon sens, il est devenu un cinéaste presque trop dans la maîtrise.
Continue si tu veux, moi je rentre à pied.
Octave. Me laisse pas seul.
J'en ai marre de tes histoires. Depuis ton retour d'Amérique, c'est des discussions, des explications, tu me fais tourner en bourrique. Et maintenant, que tu me balances un auto à travers le décor. Non, mon vieux, j'en ai assez, je m'en vais.
Tu as mal ?
1924, Catherine. 1925, La fille de l'eau. 1926, Nana. 1927, Sur un air de Charleston. 1927, encore Une vie sans joie. 1927, Marquita. 1928, La petite marchande d'allumettes avec sa femme. Catherine Esling, je crois. 1928, Tir au flanc. 1928, Le tournoi dans la cité. 1929, Le bled. 31, On purge bébé. Encore 1931, La chienne, avec Michel Simon, le grand. 1932, La nuit du carrefour. 1932, Boudu sauvé des eaux. Encore une fois avec Michel Simon, qui est superbe. 1932, Chotard et compagnie. 1933, Madame Bovary, celui que j'ai un petit peu moins aimé. 1935, Tony, sublime. 1936, Le crime de Monsieur Lange, sublime. 1936, Parti de campagne, sublime. 1936, La vie est à nous, communiste. 1936, Les bas-fonds. 1937, La grande illusion. En 38, c'est La Marseillaise. En 38 encore, c'est La bête humaine, adaptation de Zola. 1939, son chef-d'œuvre, La règle du jeu.
Il y a une chose qu'on continue à voir beaucoup chez Renoir, c'est que la mise en scène et la technique se faire devant nos yeux. C'est-à-dire, on sent les travelling, on voit les plans qui se rapprochent des visages ou des acteurs. Il ne cherche pas à gommer entièrement les intentions. Il y a une dimension comme ça d'artisanat qui, à mon avis, consciemment ou inconsciemment, au début inconsciemment et après de plus en plus consciemment, une forme d'héritage de l'impressionnisme, c'est-à-dire ce moment de la peinture qui est la naissance de la peinture moderne, où on laisse voir le travail, on laisse voir les touches, on laisse voir entre guillemets les imperfections. Il hérite de ça et je pense qu'il a une très très grande sensibilité à ça. Et ça, c'est une chose qui, moi, me parle beaucoup et qui est... Enfin, que ce soit moderne, on s'en fout un peu, c'est-à-dire moderne, ça veut tout dire et rien dire. En tout cas, c'est moi, je trouve très beau parce que c'est une manière d'assumer la fabrication et de repousser d'une certaine manière le lissage et le formatage.
Une fois de plus, nous vérifions les théories de Sartre, à savoir que l'essence vient après l'existence. Une chose existe, et puis son sens... Ce que ça signifie, ça vient après. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'architecture moderne est mauvaise. Et que c'est ça, moi, à mon avis, c'est ma critique de l'époque moderne. C'est une époque où on croit au plan, au blueprint. Moi, je ne crois plus au plan, je ne crois plus au blueprint. J'ai l'impression que le plan, on doit le faire après avoir construit la maison. Alors là, on fait un plan.
Jean-Renoir, oui. Quand nous parlions des Beatles...
Oui, vous me dites que vous avez entendu un disque... Mmh. Qui commence par les premières mesures de la Marseillaise, et ceci dans un sens extrêmement flatteur, étant donné que ce chant est utilisé comme une expression de liberté.
C'est ça.
Ça ne m'étonne pas du tout. J'aime énormément les Beatles. Ils ont une importance primordiale à notre époque. On peut même dire qu'ils ont transformé le monde.
In India, to honor guests on special occasions, women decorate the floors of their homes with rice flour and water. With this Rangoli, we welcome you to this motion picture, filmed entirely in India, in Bengal, where the story really happened.
C'est étonnant comme c'est un cinéaste qui a fait à la fois des films vraiment très différents, parce que donc il a eu plusieurs périodes, mais en même temps, c'est un cinéaste qui a toujours sa petite musique, c'est-à-dire vraiment une musique humaniste. Tous ces films racontent la même chose, comment des univers qui n'étaient pas faits pour se rencontrer s'interpénètrent, et comment de cette rencontre fleurit une autre société comme une contre-société. Évidemment, des fois ça rate, évidemment, c'est des tentatives. Des fois c'est illusoire, mais il y a cette tentative chez lui.
Est-ce que vous pensez, Jean Denisot, que Jean Renoir était un humaniste ?
Évidemment, c'est le cinéaste humaniste. Évidemment, ce qui n'empêche pas chez lui une très grande lucidité sur la période qu'il a connue. Il a fait la guerre, il a fait la Grande Guerre. Il a dû s'exiler pendant l'occupation allemande.
Pourquoi il s'est exilé ?
Il s'est exilé pour travailler. c'est-à-dire pour faire ce qu'il devait faire, lui, en tant qu'artiste, c'est-à-dire faire des films. Beaucoup de gens sont restés... des gens portent un jugement sur les gens qui s'exilent. Évidemment, il n'y avait plus de films qui se tournaient en France. Et lui, il savait que ce qu'il devait faire, c'était des films. Et c'était en quelque sorte, enfin, selon moi, je ne suis pas un historien. Et on peut dire que je suis un peu un fan de Renoir, donc je ne suis pas très objectif. Mais c'était sa manière de participer à l'effort de résistance, en quelque sorte.
Alors, je suis en train de lire une biographie de Renoir qui m'éclaire beaucoup sur toutes ces questions-là, qui est le livre de Méry Jo. Et il n'est pas parti parce que Pétain a été appelé au pouvoir. Il a même fait des signaux très tôt au régime vichiste en lui proposant ses services, plus ou moins comme cinéaste officiel, tout en œuvrant pour partir aux États-Unis en sous-main. Et avant ça, il y a un passage très troublant et vraiment très très gênant, c'est qu'il a tourné un film, enfin il a commencé à tourner un film pour l'Italie fasciste, alors que pendant toutes les années 30, il a écrit très très clairement et très fortement des choses violentes contre Hitler et contre Mussolini. Donc c'est dans sa période de compagnonnage avec le PC, et progressivement en s'approchant de 38-39, il a été contacté par le fils de Mussolini, qui avait une société de production de cinéma, et il a contacté Renoir en lui commandant un film qui était donc une adaptation de La Tosca, et Renoir l'a préparé, ce film. Il a passé plusieurs mois en Italie et ça a choqué énormément ses compagnons qui ont cessé de l'être, quoi, c'est-à-dire Aragon, tous les vrais propagandistes communistes dont il se distinguait un tout petit peu dans la mesure où il n'était pas lui-même au PC. Et en fait, c'était effectivement un opportuniste.
Jean Renoir, nous allons donc parler de votre vie et de vos rencontres en Amérique. À quelle date se situe votre premier voyage en Amérique ?
En 1940.
Dans quelles conditions êtes-vous parti ?
Eh bien, j'étais en France, j'avais pu quitter Paris, et même dans des conditions... Bon, pas trop désagréable, enfin ce qu'on a appelé l'exode. Mais enfin, pendant cet exode, mes amis Cézanne et moi-même, nous étions partis ensemble. Nous n'avons été bombardés que 4 ou 5 fois par des Italiens. Les Italiens avaient la manie de voler au ras du sol et de lâcher des bombes sur les gens. C'était assez désagréable. Mais enfin, les bombes tombaient en général à côté, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu juste un pont soufflé, je me rappelle. Il ressemblait à un chat qui faisait le gros dos. Mais enfin, en grimpant, on arrivait à passer tout de même avec la voiture. Enfin, nous sommes arrivés dans le midi. Dans le midi, j'ai rencontré des gens très gentils, pleins de bonnes intentions, qui m'ont transmis des œuvres extrêmement flatteuses des occupants. On me proposait de faire des films comme je le voulais, les films que j'aimerais faire. On me demandait si je n'avais pas de vieux rêves non réalisés. Et on savait que j'avais quelques idées techniques quant à la fabrication des films. On me laissait même entrevoir que je pourrais peut-être participer à la construction de studios, qui eussent été des studios bâtis plus ou moins suivant mes conceptions. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux m'abstenir, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, j'ai reçu une convocation du consulat américain de Nice. Et on m'a fait savoir que si je voulais aller en Amérique, j'y serais le bienvenu. Alors, comme les offres flatteuses devenaient plus présentes, j'ai pensé que peut-être il valait mieux aller en Amérique.
Est-ce que vous imaginez, Romain Arduin, l'homme Jean Renoir ?
J'avais du mal à me l'imaginer. Et puis, je suis allé voir un peu quelques archives, ce qu'on pourrait trouver, quoi. Et puis, j'ai lu aussi une petite autobiographie qui s'appelle Ma vie, mes films, et qui est très courte, très agréable à lire, mais qui fait pas une analyse de ses œuvres. Et je pense que l'homme était compliqué, pas compliqué, mais un peu étrange. Bah, il a fait des films pour le Parti communiste, il a fait de ce que j'ai compris, moi je connais très peu cette période, mais juste avant de s'enfuir aux États-Unis, il a un peu pétainiste, il me semble, il y avait quelque chose comme ça. Je connaîtrais encore très mal son histoire.
Le cinématographe, ça m'est venu de la façon suivante. La première fois où j'ai eu conscience que le cinématographe existait, c'était pendant la guerre. J'étais pilote dans une escadrille d'aviation et un de mes camarades
Un jour, il revient de permission, il me dit, tu sais, mon père m'a emmené voir un spectacle cinématographique, un comique, un type qui s'appelle Charlot, et mon père prétend que maintenant que le cinématographe a un type comme cela, ça va devenir un grand art. Alors, quand tu iras en permission, va donc voir Charlot. À la prochaine permission, je suis allé voir Charlot, et j'ai été convaincu, ça m'a bien épaté. Néanmoins, je ne pensais pas à faire du cinématographe. Ensuite, j'ai été blessé, j'ai eu des convalescences, je marchais avec des béquilles, j'étais à Paris, je m'embêtais en convalescence, alors j'allais au cinéma, et j'ai fini par aller au cinéma jusqu'à 3 fois par jour. Je voyais surtout des films américains. Je connais absolument par cœur tout le cinématographe américain de l'époque 1914 à 1919, le cinéma muet. Et je continue à l'admirer beaucoup.
Pourquoi vous aimez moins, Romain Arduin, les films d'après-guerre?
Je sais pas, peut-être la couleur. C'est bête, hein, parce que finalement, son père, c'était quand même un... Enfin, je sais pas comment dire, mais son père utilisait beaucoup la couleur aussi. Hein. Du coup, il devrait... Et c'est un goût personnel. Il y a moins peut-être d'enjeux de... Alors attention, quand je dis j'aime moins, c'est une échelle tellement importante que je les aime quand même beaucoup. Par exemple, French Cancan, je l'ai vu récemment, hein. c'est sublime. En plus, je pense que Renoir était très content de faire un film d'époque avec un Montmartre derrière.
L'argent, c'est timide comme une tourterelle. L'argent s'apprivoise comme une pucelle. L'argent timidement se cache dans les matelas, se cache dans les galetas des avares, des richards, des cocottes, des bigotes, des banquiers, des cavés, des seigneurs, des voleurs, des repus, des ventrus, des fadas, des gagas. L'argent pour Danglars, ça n'est que du vent. En avant, à l'assaut des moulins à vent. Dratatatata, 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 soldats ne franchez pas. En avant pour les gigolettes.
Dominique Khalifa, vous êtes historien. Pourquoi il vous intéresse Jean Renoir?
Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Renoir tourne ses films, c'est-à-dire on est allé entre la fin des années 1940 et la première, les 4 ou 5 premières années de la décade 50, on est à un moment extraordinaire où tous les cinéastes français, enfin en tout cas une grande partie des cinéastes français, filment des histoires de la Belle Époque. C'est presque l'apogée du cinéma de reconstitution Belle Époque. J'ai calculé, évidemment c'était un peu à la louche, certains ont pu m'échapper, mais qu'il y avait au moins une soixantaine de films Belle Époque, des films en costume, donc, qui reprenaient des vaudevilles ou des pièces du début du siècle, soit qui proposaient effectivement des scénarios originaux, qui étaient tournés entre 1945, pour aller vite, et 1960. En une quinzaine d'années, il y a quasiment un genre de films Belle Époque. Alors, c'est pas des très bons films, ce sont des films effectivement qui vont beaucoup susciter la critique des amateurs de cinéma et la critique de la jeune garde qui est en train de se préparer dans l'ombre dans les années 50. Mais le fait est que Renoir, le patron, selon Rivette, Renoir contribue assez fondamentalement à ce moment de Belle Époque du cinéma français avec quand même 3 films qui sont des films intéressants. La reprise de la Journal d'une femme de chambre, French Cancan et Elena et les hommes. Mais si vous voulez, on a discuté ces films comme si finalement le Renoir d'après-guerre, le Renoir qui revient des États-Unis, faisait du Technicolor avec et de la chanson facile avec French Cancan, ou de la comédie légère d'amour où la politique était réduite à une histoire de coucherie avec Elena et les hommes. C'est peut-être pas aussi vrai que ça. Le film de 46, Journal d'une femme de chambre, c'est quand même un film qui est un peu dur, hein, qui est un petit peu difficile, qui met en scène la résistance d'une femme contre la domination des 3 hommes qu'elle va rencontrer. Elle va utiliser chacun des 3, mais pour mener son combat, qui est quand même un combat d'émancipation. Et la fin du film, qui est un 14 juillet, on sait combien Renoir apprécie, enfin, voit quelque chose de populaire et un ressort fort de la liberté du peuple dans la fête du 14 juillet. Et puis, dans French Cancan, ce que défend Renoir, c'est autre chose. C'est l'idée, finalement, qu'il peut y avoir, enfin, et qu'il y a une nécessaire liesse, joie, culture populaire qui s'exprime, effectivement, au travers de ces formes de café-concert, de chansonnette, et que c'est quelque chose à prendre en compte. Et que la prendre en compte, la filmer, la restituer, c'est aussi, d'une certaine manière, rendre à la culture populaire une partie de sa vigueur et de sa force.
Du monde.
Et c'est eux-mêmes qui l'annoncent.
La particularité de Renoir, c'est de ne pas être dans l'idéologie et dans la thèse. Et notamment, par exemple, un film comme La Grande Illusion, qui est décrit tout le temps comme un film antimilitariste, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas du tout un film à thèse contre la guerre. C'est même un film qui a une certaine admiration pour les gendarmes, les gens qui manient les armes, quoi, pour l'uniforme et pour le monde en train de disparaître qui est représenté par les militaires de métier. Et notamment par les aristocrates militaires. Ce que lui a été, c'est-à-dire que, enfin, il s'est engagé dans l'armée très jeune avant de devenir cinéaste, et il avait une grande admiration pour l'uniforme. Ce que je veux dire, c'est que souvent on le range à des endroits très très univoques. Or, c'est vraiment un cinéaste de l'équivoque et du rapport, quoi. Et il est capable. Et c'est la grandeur aussi, par exemple, de La Grande Illusion, d'être absolument convaincant dans le portrait de Gabin, qui est l'homme du peuple. Et qui est la char à canon, qui en a marre, et d'être convaincant, émouvant et bouleversant sur les aristocrates français et allemands, qui sont précisément les espèces de derniers signaux d'un monde en train de disparaître et qui en sont conscients. Parce que c'est d'une certaine manière, dans certains de ses films, un cinéaste qui passe par l'idéalisme pour finir par faire le constat qu'il est impossible, en tout cas dans certains de ses grands films, notamment La Règle du jeu, qui est un film très très noir et très désillusionné. Là où la Grande Illusion est un film plus positif, en fait, en réalité.
Je vais vous dire quelque chose, Baldier. Croyez bien que le métier que j'ai fait à Creusant me répugne autant qu'à vous.
De tes vers.
J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Brûler partout. La raison pour mes gants. Colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en action aussi. Les malheurs de la guerre manquent d'apporter ses richesses.
Me permettez-vous une question?
Naturellement.
Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me restant chez vous?
Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne.
Mais les camarades sont aussi des officiers.
Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils
sont très bons soldats.
Oui, joli cadeau de la Révolution française.
Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps.
Voyez, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Raffenstein et des Voyez.
On n'a peut-être plus besoin de nous.
Et vous ne trouvez pas que c'est dommage?
Peut-être.
Renoir, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Et avec tout l'amour que moi je lui porte, il ne faut pas forcément le distinguer essentiellement. Enfin, en tant qu'artiste, il est essentiellement différent des autres. Mais enfin, il s'inscrit aussi dans un courant qu'il n'est pas le seul à avoir forgé et qui n'est pas entièrement distinct de lui, quoi. Le cinéma des années 30 en France, c'est peut-être la période la plus belle du cinéma français, quoi. Avec tous ces cinéastes-là, avec Vigo, avec Pagnol, qui a fait des trucs dingues, enfin. Donc c'est quand même une émulation collective qui est incroyable. Et une compétition, il était, notamment lui se sentait très en compétition, notamment avec Carnet, avec Claire, et aussi, même si elle est moins âpre, avec Duvivier, mais parce qu'ils étaient connus, et que c'est quelqu'un qui avait envie d'être le meilleur, qui était vraiment un ambitieux, non? D'une manière assez mystérieuse, il y a une musique qui se dessine, qui est assez irremplaçable, assez unique. Mais c'est dur de d'expliquer pourquoi il se distingue. Je serais bien en peine de dire exactement pourquoi je le préfère.
Qu'est-ce que Renoir a que n'avait pas Julien Duvivier ou René Clair?
René Clair, c'est un peu plus imprécis, mais en tout cas Duvivier. Ah bah Duvivier, déjà, il aime pas les femmes, hein. Et je pense que, enfin, c'est un grand cinéaste, c'est un grand cinéaste tout court, mais hélas, c'est un grand cinéaste misogyne. C'est-à-dire que la femme, c'est toujours soit Mireille Balin, Viviane Romance ou Daniel Delorme, c'est toujours la garce qui trahit, qui manipule. y a un peu de générosité à des moments, mais c'est très noir, Julien Duvivier. Sur la société, je pense que Julien Duvivier, il ne croit pas tellement dans l'homme. Même quand il tourne La fin du jour, qui est un film qui s'attendrit comme ça, je pense que il y a quelque chose qui reste noir, 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 quoi.
Et Renoir aime les femmes.
Ah ben, Renoir adore les femmes. Et adore les gens. Hommes et femmes.
Écoute, papy, je vais te donner un bon conseil. Si c'est un amant que tu veux, télégraphier Alexandre, tu pourras jamais mieux trouver. Et si c'est un mari, bah épouse Polo. T'as le choix. D'un côté, les bijoux, les fourrures, la grande vie, et de l'autre côté, la sécurité et la vieillesse heureuse au coin du feu. Et dans l'honneur et dans la dignité. Mais moi, je peux pas te donner tout ça. Regarde-moi bien, est-ce que j'ai une gueule de prince charmant, hein?
Période américaine, 1941, les temps tragiques sous Emploi, 1943, Vivre libre, This Land Is Mine, 1945, L'Homme du Sud, 46, Le journal d'une femme de chambre, 46 encore, Salut à la femme, 47, La femme sur la plage, 51, Le fleuve, 53, Le carrosse d'or, French Cancan en 54, Hélène et les hommes en 56, Le testament du docteur Cardelier en 59, Le déjeuner sur l'herbe en 59, Le caporal épinglé en 62 avec Claude Rich, qui est mort il y a peu, et en 1971, Le petit théâtre de Jean Renoir.
Et Renoir meurt en quelle année?
En 79, Beverly Hills, il est enterré.
Depuis que j'ai vu des films de Renoir, j'ai dû voir les premiers films de Renoir dans des ciné-clubs ou dans les cinémas après la Libération, eh bien Renoir est toujours resté le numéro un, celui qui m'a le plus influencé, parce que c'était le plus complet, puis probablement aussi le plus français. Pendant de longues périodes, j'ai admiré le cinéma américain, et puis à d'autres moments, je me suis dit non, on est français, on ne doit pas imiter les Américains. Et Renoir, certainement, a été l'homme le plus complet. Il a fait énormément de films qui ont tous énormément d'intérêt, et il a pratiqué un cinéma de personnages où la richesse humaine des personnages est plus importante que la force des situations dans lesquelles ils sont plongés. Et comme c'est un homme qui a beaucoup de fantaisie, il a quand même pu filmer des situations très fortes, des meurtres, des suicides, des choses un peu folles, mais avec cette simplicité et avec un tel parti pris de familiarité que tout passe et tout est réaliste, et il a été le cinéaste le plus vrai.
Mais voilà, après il y a une légende qui est entretenue par lui et par les gardiens de son temple,
Truffaut
au premier chef, et qui n'a fait que suivre en fait la version de Renoir, le verbe renoirien et la légende. Oui, d'une manière assez aveugle, quoi.
Truffaut, qui a appelé sa société de production Les Films du Carrosse en hommage au Carrosse d'or, et qui a appelé Antoine Douanel Douanel parce que la secrétaire de Jean Renoir s'appelait Ginette Douanel, je crois.
D'accord. Ouais. Ben ça, je ne le savais pas. C'est une évidence que le cinéma de Truffaut hérite en grande partie, mais d'ailleurs tout le cinéma de la Nouvelle Vague, absolument tous les cinéastes de la Nouvelle Vague sont de manière extrêmement différente des héritiers de Renoir, et même je dirais des héritiers des années 30, quoi, du cinéma français des années 30, et Renoir en premier, quoi. Le cinéma comme enregistrement de ce qu'il y a devant la caméra, dans la rue s'il le faut, dans des décors naturels, avec des gens qui parlent et qui ne sont pas doublés. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas de beaucoup de films de la Nouvelle Vague, dont Les 400 coups, qui est un film en son post-synchronisé. Enfin, le son direct, c'est-à-dire vraiment absolument direct, quoi. C'est Eustache et Piala, quoi, qui sont encore plus frontalement des héritiers de Renoir. C'est-à-dire d'une certaine manière, ils enjambent la Nouvelle Vague, qui est partie de Renoir, entre autres, mais qui était aussi extrêmement influencée par le cinéma américain, et qui décide de devenir brutalement moderne. Avec aussi des choses très excessives, mais c'est pas vraiment une école. Il y a pas de vraie unité stylistique dans la Nouvelle Vague. Il y a une unité de vue, c'est-à-dire c'est quelques jeunes hommes très ambitieux, quasiment que des hommes. Il y a Agnès Varda, mais qui est un peu marginale, et qui veulent prendre le pouvoir sur. Donc en ça d'ailleurs, ils ont aussi un certain rapport avec Renoir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pour la plupart l'air assez sympathiques. Pour des raisons assez différentes, quoi. Truffaut, avec un grand humanisme, Chabrol, la bonne chair, la bonhomie, Romère, l'érudition, un peu comme ça. Godard, c'est plus difficile de trouver, l'endroit sympathique. Voilà, c'est ça, exactement, oui, c'est l'hurluberlu sympathique, et qui, en fait, quand on creuse un peu, sont aussi des gens qui ont, mais comme tout le monde, en fait, des zones plus complexes, plus étranges. c'est tous des gens qui façonnent leur légende aussi, et qui deviennent des images, parce qu'ils ont une très haute idée d'eux-mêmes, et qui s'inscrivent, ils veulent s'inscrire dans l'histoire du cinéma, et même au-delà, dans l'histoire de l'art, quoi. Donc, et ça, Renoir, c'est très clair chez lui. Et c'est progressivement très clair chez lui. Et pour aussi une raison toute simple, c'est qu'il se pense pendant très longtemps, il ne savait pas comment être à la hauteur de son père, quoi. Et de son frère aussi, parce que son frère était un des plus grands acteurs de son temps, qui est maintenant beaucoup moins connu que Jean, mais en fait, donc Pierre Renoir, qui est un acteur génial, vraiment un acteur de génie, pendant très longtemps, Renoir était le petit frère qui ne faisait rien de sa vie, alors qu'il avait un père illustre et un frère illustre.
Le patron de la nouvelle vague.
Je me sens beaucoup plus près d'eux que je ne me sentais près de mes contemporains, des gens qui faisaient des films quand j'étais jeune. Je m'en sentais très éloigné. Je veux même vous dire une chose. Lorsque j'ai commencé à faire des films, à part évidemment des gens comme Feuillade, qui avec Fantomas avait du génie, et plus tard René Clair, Feder, etc., enfin les grands, mais à part ça, je ne pouvais pas voir le cinéma français. Le cinéma français me semblait être une plate copie du théâtre et n'être pas du cinéma. À dire la vérité, et je n'ai pas tellement changé d'avis, j'aimais surtout les westerns.
Romain Arduin, vous pensez qu'il y a des filiations chez les cinéastes français avec Renoir d'aujourd'hui ou des années alors, bon, mettons de côté la nouvelle vague, mais...
Il fait des films, La règle du jeu, c'est un film avec une multitude de personnages. Je dirais qu'il y a des Pléchins qui a fait un film choral. Il y avait Conte de Noël, il me semble, qui était comme ça, mais c'était pas du tout les mêmes formes cinématographiques. C'était pas du tout les mêmes enjeux, je pense. Hein. Mais il y avait des Pléchins, pour moi, et quelqu'un qui où il y a beaucoup de personnages, où il étudie beaucoup les relations. J'ai du mal à retrouver en fait un réalisateur qui est aussi adorateur de ces personnages.
Et entre Renoir et des réalisateurs étrangers?
Néoréalisme italien, il y avait ça, mais c'était particulier. C'était sur le film Tony qui est un peu un précurseur du, enfin qui fait 10 ans avant ce que les Italiens vont commencer à faire. Enfin, je pense. Hein, je connais encore très mal une fois tout ça. Il y avait ce néoréalisme, un réalisme très poussé où il laissait le temps au personnage d'éclore, de paraître. Il y avait un réalisme voilà, tout simplement poussé. Hein, et je pense que c'est ce qui a plu aussi à Visconti, tout ça. Et sinon, étranger, en fait, je le place tellement haut finalement que le comparer à quelqu'un d'autre, il est possible, tout est comparable, hein, mais j'ai pas en tête en tout cas quelqu'un qui puisse lui ressembler.
Au téléphone, vous m'aviez parlé de Wes Anderson.
Ah oui, tout à fait. Ah non, oui, encore une fois, pas dans les formes, pas vraiment dans une mise en scène qui est très particulière. Anderson, on dirait que c'est souvent un réalisateur qui fait des films sur un peu autiste, pas dans le. Un peu dans des personnages qui sont très extravagants, très et qui sont souvent en marge de la société, mais il y a toujours un amour en fait des personnages et que je retrouve chez c'est vrai, j'avais totalement oublié, mais que je retrouve qui est chez Anderson aussi.
Oh, c'est que j'en ai vu, tu sais, depuis que je t'ai quitté, j'ai tout fait, c'est bien ça. J'étais marchand d'habits, primardeur, ivrogne, voleur, et même pour commenter, assassin.
Ah mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Faut tout pour faire un monde.
Je voulais montrer l'image d'une société, je pense, et parfois, ça, la règle du jeu, c'est pour moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est une société, c'est nous dansons sur un volcan. C'est ce qu'il disait, je crois. Nous dansons sur un volcan, le volcan, c'est cette société qui est un peu étrange, hypocrite. Et puis nous, on fait avec, quoi. Mais c'est ce que j'aime bien chez Renoir. En fait, c'est finalement critiquer la société, mais pas les personnages qui la composent. C'est-à-dire que chaque personnage individuellement est un... Et c'est ça qui est beau, hein, c'est que, par exemple, dans La Grande Illusion, chaque personnage va apporter quelque chose de particulier. Mais c'est le tout enfin, je sais pas comment dire, le tout est magnifique, mais chaque personnage va faire sublimer le tout sans en oublier pour autant ses particularités. Et Renoir, c'est quelqu'un comme ça, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux personnages, où il a énormément de personnages, et quelque chose de complexe, je sais pas comment dire, c'est encore confus pour moi, hein. Mais c'est énorme, c'est quelque chose de très gros. Avec moi, bah, la preuve, hein, moi ça me dépasse, ça me dépasse totalement. Voilà, je sais pas, je le vois comme ça, puis je le vois comme un bon vivant aussi. J'aime bien les bons vivants, et il avait l'air d'en être un en tout cas. Et puis je le vois comme ça, malgré le fait qu'il se dit dans son autobiographie, dit qu'il était un lâche. Mais je ne sais pas s'il faut le voir comme ça. Il fait beaucoup de films sur la grande illusion, le caporal épinglé, c'est des gens qui s'enfuient, qui veulent s'enfuir du moins. Et on retrouve un peu de ça chez lui. Enfin, je ne sais pas. Il y a beaucoup de... Renoir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de domaines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit un film de Renoir, il faut le voir des dizaines de fois pour arriver à chaque fois avoir quelque chose de différent. C'est quelque chose de gros, quoi. C'est immense. C'est pour ça, quand c'est immense, c'est souvent indéfinissable. C'est ça qui est beau aussi. Pas forcément tout le temps analyser, etc., mais se laisser un peu submerger par cette beauté, par cette mise en scène, cette subtilité, qui est magnifique, quoi. Ça me surprend.
Romar Duin, vous voulez être réalisateur ?
Non. Mais être réalisateur, je pense pas que j'aurais quelque chose à dire.
Je mens très souvent parce que je réponds à des gens, à des amis, ou peut-être dans mon métier, dans les affaires, en conformant mes réponses à une réalité qui n'est pas la réalité, qui est un rêve. Alors je suis donc parfaitement sincère, je ne mens pas par rapport à cette fausse réalité, mais par rapport à la vraie réalité, la réalité des autres, je mens. Mais je n'ai pas une très grande connaissance de mes rêves endormis. Je connais mieux mes rêves éveillés.
Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente ?
Oui, enchantée. Enfin, on commence à jouer carte sur table.
Les femmes, elles sont bien gentilles. Je les aime bien. Je les aime trop même. Mais c'est à cause des ennuis.
C'était Jean Renoir, Tout le monde a ses raisons.
Beaucoup de sympathie.
Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivet.
Mais je vous ennuie.
Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde.
Oh, moi, je ne voudrais faire de peine à personne.
Avec Jean Denisot, enfin. Romain Arduin, Jérôme Bonnel, Arthur Harari et Dominique Khalifa.
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas...
Merci à Manouchak Fachaï et René Bonnel.
Mais je vous ennuie.
Ennuie. Et vous avez des mots, ma chère.
C'est le mot exact.
Monsieur le Marquis veut plaisanter.
Je savais bien que Monsieur le Marquis me comprend. Il reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ta grande brute.
Grande brute. Mais t'as pas la politesse.
Ce que j'ai fait pour un petit
lapin. On devrait avoir le droit de faire des crapules pareilles.
De rien du tout.
Mixage Claude Niort.
Je ne lutte plus. On lutte contre la haine, mais contre l'ennui, il n'y a rien à faire.
Recherchina Hervé Evano.
Merci. Oh, puis moi aussi, je commence à trouver tout ça assommant.
Nouvelle définition du mot accident.
Coordination Irène Omelianenko. Attachée de production Claire Poinsignon.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission quand vous le voulez en allant sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral, Juliette Drone et Annelise Signoret. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.